19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Émilie Carouge, Anne et Léonine Carré, André, Cécile, Georges et Jean-Louis Tolloy, Emmanuel, Eugène et Henri Lacombe, Marie-Louise, René et Léonis Martial, Bernadette Camille et Félix Planchette. Revient de Saint-Pierre, ville complètement détruite par masse de feu vers 8h du matin, suppose toute population anéantie. C'est par ce bref télégramme que la métropole et le reste du monde apprirent l'effarante nouvelle, celle d'une cité pétrifiée, à tout jamais figée, scellée sous 3 mètres de cendres et de nuées ardentes, aujourd'hui lieu mémoriel, gigantesque gisement archéologique. Sous le volcan, à l'occasion de l'aménagement du mémorial de l'éruption de 1902 et du musée Franck Perret, à l'invitation de la Fondation Clément, je me suis rendu sur les rives des Antilles pour y découvrir cet exceptionnel site archéologique de Martinique et les recherches actuellement entreprises à la croisée de l'archéologie des catastrophes et de celle des temps contemporains. À mi-pente de la montagne Pelée, la Pelée, et dominant le rivage, c'est dans les ruines, chaos peu à peu réinvesti par la vie, que j'ai retrouvé Marie Hardy et Jeanne Casassus-Bérard, historiennes et archéologues, membres du comité scientifique du musée Perret, spécialistes des temps contemporains et du patrimoine de la Caraïbe. Marie Hardy, nous voici devant un sanctuaire.
Un sanctuaire, peut-on parler de sanctuaire ? Le 8 mai 1902, exactement à 8h10 en fonction de certaines personnes, en fonction de l'horloge de l'hôpital militaire de Saint-Pierre qui s'est arrêtée à 7h, en fonction d'Alfred Lacroix qui a minutieusement étudié la catastrophe, ça serait plutôt 8h01 du matin, la nuée ardente qui dévale les flancs de la montagne Pelée anéantit la ville de Saint-Pierre qui est alors estimée à environ 26 000 individus.
Combien de cendres sur la ville, Jeanne Casassus-Bérard ?
Entre les niveaux de démolition, plus les produits pyroclastiques qui ont fondu sur la ville, on estime pour les zones les plus proches du volcan à peu près à 3 mètres de dépôt. Plus on s'éloigne évidemment du volcan, moins c'est important. Mais pour en revenir à ce sanctuaire, on n'est pas que dans un sanctuaire, on est aussi dans une ville du 21e siècle avec des habitants vivants, bien vivants, qui attendent aussi, qui ont des projets pour l'avenir, pour qui c'est compliqué aussi de vivre avec ce passé qui est extrêmement envahissant.
De vivre aussi sous le volcan. Que sait-on de l'histoire de la ville, Marie Hardy ?
L'histoire de la ville est en perpétuelle construction. Jusqu'à présent, l'historiographie s'était attachée à révéler l'histoire des campagnes, l'histoire rurale de la Martinique. Et c'est depuis récemment, notamment depuis la thèse d'Anne Perrotin-Dumont sur les villes en Guadeloupe, que la recherche historique en Martinique progressivement s'attache à étudier les villes.
Alors moi j'imagine cette ville de Saint-Pierre comme une ville créole, intégrant marins issus du monde entier. Comment s'organise la vie de la ville avant la catastrophe ?
Elle est complexe et ce qu'on peut appeler une terre des possibles où les reconversions professionnelles sont plus faciles qu'au sein de la société d'habitation où les structures sont plus cloisonnées, plus coercitives aussi également. Au sein de la ville, on constate qu'il n'y a pas de cloisonnement, du moins dans le monde du travail. Il n'y a pas de cloisonnement ethnique, aussi au niveau de l'organisation du territoire.
C'est-à-dire que si on regarde l'urbanisme, on aurait une grande mixité des populations ?
La ville de Saint-Pierre, c'est le creuset de la créolisation, justement. C'est là où ça se passe, c'est là où les populations se mêlent, à la fois une population flottante de marins, mais aussi différentes composantes de la société martiniquaise de l'époque. Alors, il faut bien savoir de quelle époque on parle. Avant 1848, il faut quand même rappeler qu'il y a quand même une grande partie de la population qui est esclave, servile, avec des blancs, des libres de couleur, des esclaves. Donc ces trois composantes principales, c'est ici en fait que ces différentes composantes vont se mêler. Et dans cette ville aussi, on a beaucoup de libres de fête. Et ça, c'est aussi un des aspects intéressants de cet espace. Au niveau de l'architecture, on a tout un tas de modèles architecturaux. Alors certains qui sont importés, en particulier pour les bâtiments publics, mais aussi une architecture qui est le résultat de croisements d'origines, d'influences diverses, à la fois par rapport aux colonies américaines ou anciennement anglaises, par rapport aussi à l'esthétique française métropolitaine, et puis des inventions qui se font aussi sur place, puisqu'il faut bien s'adapter à un milieu qui est complètement nouveau, à la fois géographiquement, climatiquement, les matériaux aussi qui sont disponibles, et aussi les savoir-faire qui ne sont pas toujours disponibles sur place et qui influent aussi sur l'architecture.
Jeanne Casassus, justement, on est au cœur d'un bâtiment typiquement français.
Oui, absolument. Nous sommes au théâtre de Saint-Pierre, la salle de comédie, comme on l'appelle à l'époque, qui ouvre ses portes à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française, et sur un modèle architectural effectivement tout à fait conforme à ce qu'on peut trouver en France métropolitaine, dans n'importe quelle ville à la même époque.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est visiblement ce théâtre qui a été le premier élément fouillé de la ville de Saint-Pierre.
Alors, fouillé, c'est beaucoup dire, mis au jour, serait un terme plus approprié. Il est déblayé en 1935, au moment de la commémoration du tricentenaire du rattachement des Antilles à la France. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est déblayé. Il s'agit tout simplement de mettre au jour le bâtiment qui incarne cette ville disparue 30 ans après, donc c'est aussi tout près. Et c'est intéressant parce que on a déjà une patrimonialisation de cette ville qui se fait à l'échelle d'une génération, sous fond quand même de la mise en place d'un prémisse du tourisme, un tourisme très élitaire évidemment, mais c'est déjà l'idée.
Et c'est bien sûr le petit grain de pluie qui tombe, grain de pluie typiquement martiniquais. La ville perdrait un peu d'influence dans les années, on va dire, de la Troisième République, les années 1880.
Dans les années 1860, voit émerger la marine à vapeur. L'apparition de cette marine à vapeur via la compagnie générale transatlantique opère un basculement de Saint-Pierre vers Fort-de-France comme port principal de la Martinique. Et donc c'est à partir des années 1860 que les navires marchands vont venir en grande partie s'approvisionner en charbon dans les entrepôts à charbon de Fort-de-France. Donc oui, il y a un ralentissement de l'économie à ce niveau-là, mais il y a aussi un ralentissement économique par rapport à la crise sucrière concomitante dans les années 1884-88 qui impacte considérablement l'économie de Saint-Pierre.
Alors tout commence bien sûr le 8 mai, vous le disiez Marie Hardy, le 8 mai, mais comme toujours il existe des signes avant-coureurs.
Oui, il y a des signes avant-coureurs, parce qu'en fait, l'échelle des hommes, l'échelle géologique est complètement différente. Cette éruption, en réalité, elle a commencé bien avant que des manifestations soient réellement visibles. Dès la fin du mois d'avril, là, il commence à y avoir des fumerolles, des odeurs sulfureuses. Mais pour les habitants de Martinique, on va monter en excursion au sommet de la montagne Pelée pour voir ce qui s'y passe. C'est une curiosité, un ancien cratère, la caldeira de l'étang sec, qui porte bien son nom, se remplit d'eau. Et donc on part le dimanche pique-niquer pour voir, observer cela. Et dans un premier temps, on ne s'inquiète pas particulièrement.
Ce qui est étonnant, c'est que l'argenterie noircit dans les maisons.
Oui, l'argenterie noircit, et non seulement cela, mais alors à Saint-Pierre, en réalité, dans un premier temps, on voit ça un petit peu de loin. On est dans une ville qui est bâtie en pierre pour l'essentiel. C'est rassurant. En revanche, pour les populations rurales et notamment celles du village voisin qui s'appelle le Prêcheur, les champs sont recouverts de cendres, il n'y a plus d'eau. La situation devient extrêmement compliquée, si bien que ces populations-là vont venir se réfugier à Saint-Pierre.
En tout cas, l'éruption est d'une invraisemblable puissance. C'est l'apocalypse.
Si on veut une image, c'est quelque chose qui peut ressembler à quoi ? Une bombe atomique. C'est de cet ordre-là. Concrètement, le 8 mai au matin, la population entend une explosion énorme. Un nuage de cendres se forme qui va déferler sur la ville. Et avant même en fait que ce nuage n'arrive, un certain nombre de bâtiments sont déjà lourdement endommagés par l'onde de choc tout simplement. Et un certain nombre de bateaux aussi qui étaient au mouillage sont coulés instantanément quand ceux qui restent encore à flot prennent feu. Donc juste pour donner un petit ordre d'idée, la combustion spontanée c'est 350 degrés. Donc voilà, donc ça c'est le minimum de la température minimale que les habitants ont eu à subir. Et ce phénomène entraîne instantanément aussi un incendie dans la ville, partout, généralisé. Les gens se sont retrouvés piégés.
C'est l'onde de choc qui a visiblement été le phénomène le plus destructeur.
Oui, sur le bâti, c'est l'onde de choc, oui.
Une sorte de souffle gigantesque.
Oui, on parle de 130 à 150 mètres par seconde. Quand on sait que dans un cyclone, la force est de 45 mètres par seconde, on imagine la puissance du souffle.
Pourquoi la population n'a pas quitté Saint-Pierre avant ?
Pour plein de raisons. Alors d'abord, il y a une partie de la population qui a quitté les lieux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les bateaux, dans les jours qui précèdent, en particulier à partir du 5 mai. En fait, à partir du 5 mai, et la destruction de l'usine Guérin, qui est le premier phénomène vraiment spectaculaire. Là, les gens ont commencé à avoir peur. C'est un lahar. C'est une coulée boueuse qui emporte une usine centrale. Elle a entièrement disparu sous la couche de boue. Ce sont les premières victimes, une trentaine. À partir de là, les gens commencent à s'affoler, commencent à quitter les lieux. Mais alors, comment on quitte les lieux ? Il y a des bateaux, des navettes maritimes. Donc là, ils sont littéralement pris d'assaut. Et cette ville est un cul-de-sac d'une certaine manière, puisque c'est une ville maritime, ouverte sur la mer, mais qui tourne le dos un petit peu à son arrière-pays, enfin, tout au moins sur le plan des communications. Donc c'est difficile aussi de partir, si ce n'est à pied. Et pourquoi on reste ? Ben, ceux qui restent, c'est ceux qui ont quelque chose à perdre, sans imaginer que préserver justement ses couverts en argent, son entreprise, c'est prendre le risque aussi de perdre la vie.
Les cendres continueront à se déposer sur Saint-Pierre encore jusqu'au 20 mai, paraît-il ?
Oui, et même au-delà, puisqu'il y a des éruptions régulières, alors plus ou moins paroxysmales, mais la ville va être progressivement ensevelie. Et justement, l'éruption du 20 mai a été qualifiée, le terme est un peu brutal, mais d'éruption sanitaire, puisqu'elle a, une des conséquences évidemment de cette éruption, c'est les victimes. On est en zone tropicale, donc on peut imaginer que la décomposition se fait assez rapidement, avec les problèmes que ça implique. Et donc cette éruption du 20 mai va finir de napper la ville et d'ensevelir les corps de ceux qui n'avaient pas pu être récupérés dans l'intervalle.
Peut-on dire que la ville a été intégralement ensevelie, Marie Hardy ?
Non, elle n'a pas été entièrement ensevelie.
Elle a brûlé, de fait, aussi.
Alors, elle a brûlé, bien entendu. Par contre, il y a quand même une partie de la ville, le quartier du Fort en particulier, que nous allons aller voir tout à l'heure, qui a été entièrement ensevelie. Donc là, il n'y avait plus du tout, il y avait plus quoi que ce soit de visible. En revanche, dans le quartier du mouillage, donc au plus loin du volcan, là, il y avait encore des ruines qui émergeaient. Et c'est d'ailleurs le point de départ de la reconstruction.
On continue notre promenade.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Nous sommes où ?
Alors nous sommes sur le parvis de l'église du Fort. On entend le ruissellement de l'eau dans les canaux. Ces canaux qui datent du XVIIIe siècle et qui remplissent toujours leur office.
Alors ça fait très ruine antique. Il y a même les colonnades.
Oui, il y a les colonnades. Cette église, en fait, elle a eu plein... C'est à la fois l'église la plus ancienne de Martinique et l'une des plus récentes aussi, puisqu'elle a été dévastée en 1891 par un cyclone majeur. Par des éruptions volcaniques, mais entre les séismes, les éruptions volcaniques, les incendies accidentels, cette ville, comme beaucoup d'autres, a été reconstruite à plusieurs reprises. Et elle a ouvert ses portes en 1895, elle était rendue au culte en 1895, et elle a été, donc là elle est complètement dévastée. On voit devant nous l'épaisseur de la maçonnerie qui n'a pas empêché que le bâtiment soit entièrement jeté à bas le 8 mai.
Mais il n'a pas été enseveli. Visiblement, on est dans un chaos de pierres, de colonnes, de blocs, mais il n'y a absolument pas de lave.
Ah non, il n'y a pas de lave. Les éruptions pélennes, c'est d'ailleurs leur caractéristique. On a compris, étudié le phénomène suite à cette éruption. C'est Alfred Lacroix, qui est un grand scientifique, qui a mis à profit, entre guillemets, cette éruption. Il a vraiment mené une enquête, comme un policier pourrait le faire, quelque part, comme un scientifique aussi, bien évidemment, le fait. Mais il a raté toutes les éruptions. Il a raté les deux premières éruptions majeures. Et donc, il s'est lancé dans la collecte de... tous les indices qu'il pouvait retrouver dans la ville et ailleurs pour essayer de comprendre ce phénomène qu'il a conceptualisé sous le terme de nuée ardente. Et les éruptions de type péléenne rappellent bien la construction en fait de ce concept.
Marie Hardy, combien de morts ?
Ça, c'est une vaste question. On a estimé souvent, et même Alfred Lacroix, qui a mené, comme Jeanne vient de le dire, une grosse enquête, a estimé le nombre de victimes à 28 000 personnes. Mais à l'heure actuelle, ce sont que des estimations et on n'a pas de sources exactes qui permettent d'identifier le nombre de victimes. On a donc un travail qui a été entamé depuis 2002 par deux associations de généalogie, GHC et la Marisfa, qui, à partir donc de cette date de 2002, qui est le centenaire de l'éruption de la montagne Pelée, ont entamé donc des recherches d'identification des victimes à travers un recoupement de sources. Donc aussi bien aux archives nationales d'outre-mer que aux archives départementales de la Martinique. Et donc à l'heure actuelle, ils ont pu obtenir une liste de 7000 et quelques noms, liste qui est exposée dans l'espace central du musée Franck Appéret. Et donc cet espace central est un mémorial de la catastrophe, c'est un hommage rendu aux victimes.
Liste très émouvante quand on voit la succession des noms, et des noms bien sûr de familles qui ont péri dans ce cataclysme. Est-ce que les 28 000 décédés ne seraient pas un petit peu surestimés ?
Si, on le pense aujourd'hui. Alors pour différentes raisons, parce qu'en fait ce chiffre, en fait, il est basé, c'est un calcul bêtement arithmétique, en faisant le recensement du nombre de départs en bateau, donc ces bateaux qui embarquaient à peu près 300 personnes, on connaît leur fréquence, etc., et retiré de la population estimée dans le dernier recensement. Sauf qu'on sait que les recensements sont faussés, la population est surestimée, bon, notamment pour des raisons fiscales, c'est pas très original non plus. Et on a du mal à estimer aussi les départs qui sont faits par d'autres voies, des voies individuelles. Par rapport au nombre de victimes aussi, ce qui est compliqué, c'est que c'est terrible à dire, mais moi, je ne suis pas juge. Cette catastrophe, elle a été aussi une opportunité pour certains. Ça, on le retrouve aussi dans les archives. Il y a des gens qui sont déclarés morts, qui en fait sont vivants. Il y a ceux qui tentent leur chance à se déclarer propriétaires ou ayant droit de... On est quand même dans une désorganisation, mais la plus totale, c'est le chaos. La ville, elle est détruite, mais toutes les institutions aussi sont mises à bas. L'élite politique, c'est les fonctionnaires, enfin, c'est compliqué. Donc dans l'immédiat, il s'agit d'abord de gérer une situation immédiate, gérer les corps déjà, et puis subvenir aux besoins d'une population qui a été, donc les survivants, tout le nord de la Martinique a été impactée. On parle de Saint-Pierre, mais ce sont Basse-Pointe, enfin voilà, depuis Basse-Pointe, Grand-Rivière, Le Prêcheur.
Le Prêcheur, il y a même 3 500, 3 400 personnes qui sont bloquées,
oui,
et qui seront petit à petit acheminés ailleurs, non, c'est ça ?
Voilà, oui, ils sont restés coincés 3 jours, le temps que voilà, les secours arrivent, et c'est le désordre total.
Qu'est-ce que l'on fait les corps ? On est devant un cas d'archéologie de la catastrophe, il faut gérer les corps, que se passe-t-il ? On fait des fosses ?
Alors, il y a une mission qui est organisée, donc avec une troupe qui arrive ici, qui rassemble les corps, alors aussi bien les humains que les animaux aussi. Hein. Et finalement, la meilleure solution, c'est de faire brûler, en fait, les victimes sur place, parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas les bras pour enterrer tout ce monde. Et puis, ça se passe au pied du volcan avec une éruption qui est en cours. Donc, la mission en question, elle passe son temps. Voilà, quand il y a une petite fenêtre, on vient traiter les corps, et puis dès que le volcan semble montrer un signe de réveil, et bien tout de suite on embarque sur les bateaux pour repartir.
On a fouillé quelques corps découverts lors de fouilles ou lors de travaux ?
Oui, on en a trouvé, mais finalement relativement peu. Hein. Alors, on a des photos de l'église où nous trouvons l'église du fort, qui elle a été, une fois encore, mise au jour, pas véritablement fouillée, mais où on a dégagé les déblais en 1952, au moment donc du cinquantenaire. Toujours, enfin, c'est quand même, ça scande, hein, cette éruption, le temps. Hein. Et on a des photos où on voit des fagots d'ossements déposés à l'intérieur de la nef. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils sont probablement partis ensuite à l'ossuaire qui est à l'arrière de la cathédrale actuelle. Mais en fouille, on en a trouvé notamment à la maison coloniale de santé, qui est un hôpital psychiatrique. Et une partie d'ailleurs est restée sur place, où on a arrêté.
Ce qui est étonnant, c'est que des fouilles sont opérées très rapidement. Enfin, dès 1902, on peut dire que les gens se mettent à fouiller, même si ce ne sont pas des fouilles.
Oui, mais alors motivés, enfin, avec une motivation particulière, il s'agit d'essayer de récupérer ce qu'on peut de sa vie au milieu des ruines. Par ailleurs, on sait aussi, ça s'est documenté, qu'il y a des fouilles qui sont... C'est du pillage, hein. On va essayer de retrouver des bijoux, des valeurs, mais il y a des centaines d'autorisations de fouilles qui sont délivrées, alors qui sont encadrées, puisqu'il y a des arrêtés. Les personnes doivent justifier, mais justifier comment ? Et le paysage est tellement dévasté que même simplement de savoir où était une rue, une maison, c'est extrêmement difficile.
Qu'en est-il de la patrimonialisation de Saint-Pierre ? On peut imaginer que dès les années 1930, quand une population s'est déjà réimplantée, on commence à s'intéresser à patrimonialiser ces vestiges ?
Oui, je crois que le moment de bascule, c'est 1935. La Martinique, à ce moment-là, veut se projeter dans la modernité. L'enjeu, c'est de devenir un département à part entière et non plus une colonie. Ça s'appuie aussi en partie sur ce qui va devenir du coup du patrimoine. Et Saint-Pierre va être définitivement ancré, ça va être son nouveau destin finalement.
Pourtant, il y a une population qui est revenue, il y a eu une forme de résilience, pourrait-on dire, dès la fin du volcan, une nouvelle population ou la population qui habitait là est revenue s'implanter.
Il y a plusieurs aspects sur cette réoccupation. Dès 1902 et dès le mois d'août, on encourage les évacués, la population qui a quitté, je ne parle pas de Saint-Pierre, hein, mais la région, toute la région du Nord. Les autorités encouragent cette population à revenir chez elle parce qu'elle n'arrive pas à gérer la situation. Et puis, il faut que les gens ils se remettent au travail. Voilà, tout simplement, de manière assez brutale. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les dernières victimes, qui sont celles du Morne Rouge et de la Joupa Bouillon, qui datent du 30 août. Parce que là, on a encouragé les gens à revenir chez eux.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a des témoignages oraux. Des gens ont raconté ce qui s'était passé.
Par ailleurs, dès 1902, on a les premières publications qui sortent, qui rapportent l'événement et qui collectent aussi un certain nombre de témoignages pour essayer, entre autres choses, de garder une trace, mais aussi de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est quelque chose qui reste assez incompréhensible.
Nous voici sous le porche, sous le fronton de l'église totalement effondrée donc en 1902. De nombreux objets sont présentés au musée Franck Perret, 432 en tout et pour tout, Marie Hardy.
Oui, on a 432 artefacts issus donc des fouilles de Saint-Pierre. Cette collection a été entamée par le créateur du musée en 1929. Il s'est rendu compte que progressivement, toute l'histoire de Saint-Pierre partait au rythme des arrivées touristiques qui progressivement pillaient la ville. Et donc, il s'est rendu compte de l'urgence de créer un musée qui allait collectionner et recenser une partie de l'histoire de Saint-Pierre.
Alors c'est un vrai musée archéologique, musée de 1902, avec des objets particulièrement émouvants, Jeanne Casatius.
Oui, alors, ils ont la particularité dans l'exposition actuelle, on a à la fois donc ces objets qui sont hors contexte. On sait simplement qu'ils ont été collectés à un moment donné à Saint-Pierre, ils sont arrivés dans le musée, mais on ne sait pas d'où ils viennent, ni dans quelles conditions exactes ils sont arrivés. Et puis on a intégré aussi certaines pièces issues là de fouilles archéologiques contrôlées, pour l'essentiel des fouilles de sauvetage. Et il y a une réserve absolument phénoménale. Enfin, ce sont des dizaines de milliers de pièces qu'il faudrait pouvoir exposer un jour.
Alors je parlais d'objets émouvants, c'est bien sûr toutes ces montres à gousset dont l'heure semble bloquée.
Oui, c'est ça. Et puis moi, il y a un objet que je trouve particulièrement émouvant parce que celui-là, on connaît son histoire. C'est un petit poupon en biscuit, en porcelaine, qui vient vraisemblablement d'une fabrique allemande et qui est à la fois un objet de décoration, mais aussi un objet lié à l'enfance. C'est un poupon qui est complètement déformé, brûlé en partie et dont on sait qu'il a été collecté par un marin, un des premiers qui est arrivé à Saint-Pierre pour porter secours ou en tout cas constater les dégâts. Cet objet a retraversé l'Atlantique avec cet homme et il a été restitué dans les années 80.
Pour vous, ce sont des objets de mémoire?
Oui, mais pas que. Moi, ce que je trouve très 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 intéressant, c'est déjà le geste de la collecte. C'est pas anodin de choisir tel ou tel objet. On a beaucoup d'objets religieux avec une surreprésentation qui est manifeste et ce n'est pas innocent. Mais ces objets hors contexte sont assez pauvres finalement d'enseignement, si ce n'est qu'ils nous racontent quand même toujours une histoire. Leur provenance et donc les relations commerciales qu'il y a pu y avoir entre les îles et le reste du monde. Mais c'est évidemment sans commune mesure avec du mobilier issu de fouilles en contexte où là, et ce qui est vraiment intéressant sur cette période-là, c'est que là on peut mettre vraiment en connexion le terrain et les occupants, puisqu'on peut même arriver jusqu'au niveau de savoir concrètement qui habitait cette maison. Là, par exemple, il y a une fouille juste à côté rue d'Orléans. On sait que une des maisons était occupée par deux sœurs, qu'elles ont pris, elles ont quitté leur maison, elles l'ont fermée, puisque ça, on le voit. Il n'y a pas l'argenterie, par exemple, il n'y a pas les objets précieux. Et on sait qu'elles ont embarqué sur le Roraima qui a coulé le 8 mai.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Cédric Chatelus et avec bien sûr la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, nous retrouverons sur leur terrain les archéologues de Rouen.